Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Georges Lochac, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Canal Académie pour un point de mire sur la Fondation Louis de Broglie. Alors c'est une fondation dont vous êtes le président depuis 2001 et vous allez pouvoir nous en donner les détails. Elle est située à Paris dans un hôtel particulier, je crois que c'est l'hôtel même de Louis de Broglie.
Non, c'est dans une boutique, c'est-à-dire c'est une boutique qui a été aménagée pour nous.
Justement, donc vous allez pouvoir nous parler pendant un quart d'heure de cette fondation Louis de Broglie qui existe depuis 1973
voilà.
Et qui a été créée à l'initiative de Louis de Broglie lui-même.
C'est ça, et la mienne, c'est quand même notre idée à tous les deux.
Alors, quelles sont les missions ?
Alors, voilà, d'abord, je voudrais vous dire d'où elle vient. C'est que quand Louis de Broglie a pris sa retraite de l'enseignement supérieur, ça devait être en 1962. Alors, jusque-là, il avait un grand séminaire à l'Institut Henri Poincaré, etc., et entouré d'énormément de monde, et il a décidé de refaire un séminaire à l'Académie des sciences en s'entourant de ses plus proches collaborateurs. Nous étions moins de 10. Et pendant une douzaine d'années, ce séminaire a marché ici, dans un bureau qui n'est plus, je crois, un bureau de secrétaire perpétuel, et qui se trouve dans la deuxième grande cour de l'Institut. Ça nous avait laissé à tous d'impérissables souvenirs, parce que faire de la physique en direct avec un personnage de cette dimension, et en plus, où on avait le droit de tout dire, ça n'était plus le séminaire officiel, on pouvait interrompre, poser les questions les plus inattendues, n'est-ce pas? Ça n'empêche pas la bienséance, mais tout était permis. Et alors est arrivé comme ça 1974, c'est-à-dire le cinquantenaire de sa thèse. Pour le cinquantenaire de sa thèse, il a eu envie de lui faire des grands cadeaux. Et alors, le plus beau cadeau que j'ai imaginé, parce que c'est de moi qui était parti cette idée, c'est de faire une fondation.
Une fondation.
Qui continue son œuvre. Ça ne veut pas dire qu'on travaillerait sur ses idées tout le temps. Hein. Les idées, même des plus illustres scientifiques, ne sont pas immortelles et ne sont pas indéfiniment fécondes. Mais enfin, garderait son esprit. Alors, cette fondation a été créée en grande pompe dans l'Institut de France, avec un formidable comité, etc. Et le premier président était lui-même un physicien célèbre, c'était Louis Néel
qui prix Nobel était, de physique aussi.
Qui était aussi prix Nobel de physique et qui était un maître mondial du magnétisme. Et alors, peut-être est-ce lui qui m'a insufflé son virus. Et la fondation s'est installée dans un endroit très modeste au Conservatoire des Arts et Métiers, dans le bureau d'un ancien élève de Louis de Broglie, qui était Cazin et qui était professeur au CNAM, n'est-ce pas, c'est l'abréviation
du Conservatoire
National des Arts et Métiers. Nous y sommes restés un certain nombre d'années, je vous avoue qu'il m'échappe maintenant. Nous avons lancé une revue, un séminaire, organisé des colloques que nous avions...
Mais l'idée, c'est de parler de la physique quantique, c'est de parler de quoi, en fait
On parlait presque entièrement de physique quantique. En fait, la physique quantique, si j'ose dire, à la mode, quoi, oui. N'est-ce pas, celle de cette époque. Oh, quelquefois, il y avait d'autres branches de la physique, hein, comme la relativité ou l'électromagnétisme. Enfin, on n'était pas sectaire. Et alors, nous y sommes restés comme ça un certain nombre d'années. Et il faut dire que de Broglie était très attaché au Conservatoire des Arts et Métiers pour la simple raison que c'est là qu'ont poursuivi leurs études ses camarades postiers avec lesquels il était dans le sous-sol de la Tour Eiffel, qui ont tous eu des très belles carrières par la suite et qui était élève du CNAM. Et donc, pour cette raison, de Broglie avait au CNAM une entrée de choix, quoi, n'est-ce
oui.
pas
il était... Et puis, il avait gardé une grande amitié, je crois,
et
avec
il avait gardé une grande amitié.
Je crois même qu'il se tutoyait, voilà, alors que c'était... le prince de Broglie, on ne le tutoie pas
sûr,
si facilement
mais,
que ça.
Mais bien sûr, il m'a montré une fois une lettre très drôle d'un de ses camarades qui lui disait « Mon cher Louis, tu n'en feras jamais d'autre pour nous faire rire. » Et en fait, c'était une lettre de félicitations pour le prix Nobel.
Pour le prix Nobel.
Alors, nous y sommes restés donc un certain nombre d'années. Et puis, à un moment donné, notre... Oui, Cazin a pris sa retraite. Notre place devenait moins évidente là-bas. Et on nous a accueillis ici, à l'Institut de France, dans l'escalier du Bureau des Longitudes, où nous avons dû rester, je pense, une dizaine d'années. Nous avions un bureau, un secrétariat, et nous avons poursuivi cette activité. Et puis, un jour, l'Académie a eu besoin. Vous savez, la maladie de notre époque, c'est le besoin des locaux. Alors,
elle avait besoin de place.
Elle avait même le besoin des nôtres. Donc, nous avons été obligés de partir. Et grâce à un mécène, car nous avons eu un certain nombre de mécènes. Grâce à un mécène, nous nous sommes, si vous me passez l'expression, installés à notre compte. C'est-à-dire que nous avons acheté une boutique dans le 12e arrondissement que nous avons transformée et qui, depuis lors, est le siège de la Fondation. Je vous signale au passage que Louis de Broglie n'a jamais eu d'hôtel particulier à lui. Il habitait à Neuilly, dans une villa complètement banale et qui était comme celle de tous ses
Alors
voisins.
Alors vous m'excuserez pour cette erreur.
Ah non, mais cette erreur est tout à fait commune. Vous savez qu'il y avait des personnages fameux qui me téléphonaient en me demandant d'une voix entrecoupée d'émotions comment on s'orientait vers l'hôtel de Louis de Broglie. Alors je leur disais, c'est le métro un tel, vous prenez telle rue, et puis c'est la première à droite, hein, quoi, c'est tout. C'était beaucoup plus banal que ce qu'ils croyaient. Mais c'est parce qu'on se fait difficilement l'idée du personnage qu'il était. C'était fini le duc de Broglie, quoi. C'était fini la grande famille qu'il aimait d'ailleurs et qu'il respectait, oui. Et même dont il était fier. Mais sa vie, c'était sa vie, puis c'est tout, quoi. Elle était différente.
Alors, si nous revenions aux missions de votre fondation.
Alors voilà, nos missions ont toujours été de deux ordres, dont un ordre qui a à peu près disparu. C'est-à-dire que pendant longtemps, nous avons drainé derrière nous des gens qui avaient envie de révolutionner la mécanique quantique et qui étaient très étonnés quand je leur disais que ni de Broglie ni moi n'en avions l'envie. D'où ils déduisaient que de Broglie était devenu un vieux birbe et moi un valet respectueux qui n'osait plus rien faire. En réalité, c'est parce que nous avions de tout autre visée au-delà de la mécanique quantique, mais qui ne passait aucunement par des tentatives de destruction. Cependant, il y a eu beaucoup de travaux sur l'interprétation de la mécanique quantique, parce qu'il faut dire que la mécanique quantique, qui est certainement la théorie physique du XXe siècle, qui a eu le succès et les conséquences les
c'est
plus extraordinaires,
c'était une
révolution scientifique, en même temps, c'est une théorie pleine de choses trappes. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, plein de paradoxes bizarres, plein de règles dont on connaît l'origine historique, mais qu'on n'explique pas vraiment. Et alors, des physiciens célèbres comme Einstein, comme Schrödinger, comme Dirac, se sont efforcés de mieux comprendre de la mécanique, comme Heisenberg lui-même, et donc comme De Broglie. Et de ce fait, nous avons publié un grand nombre d'articles, fait un grand nombre de séminaires, de colloques, etc., sur des sujets de ce genre, dont je dois dire, sèchement, qu'ils n'ont pas abouti. Nous avons échoué. Et dans le tas, je pense que nous avons eu des très bonnes idées. Mais elles n'ont pas abouti. Vous savez, il faut quand même dire que dans la recherche scientifique, la plupart des idées n'aboutissent pas. On ne connaît dans l'histoire des sciences que celles qui ont marché. Et puis par-dessus le marché, l'histoire des sciences est un énorme cimetière d'idées neuves. Et ce qui est remarquable, c'est que quand on va piocher dedans longtemps après, on se dit, tiens, mais ce qu'ils ont dit là, à ce moment-là, ça n'était pas mal si on le reprenait. Alors, nous faisons partie de ce cimetière. cimetière, du moins par ce côté de notre activité. Moi, je ne regrette rien, j'y ai appris des montagnes de choses.
Alors, également, donc, vous participez à la publication d'articles sur des sujets.
Alors,
qui...
évidemment, nous avons... d'abord, nous avons une revue, les Annales de la Fondation.
Voilà, vous avez une revue.
Une revue qui marche pas mal, quoi, enfin, qui est...
Et comment on peut se la procurer? Il faut venir vous trouver.
Oui, on peut nous téléphoner et l'acheter. Elle est certainement dans la bibliothèque de l'Institut.
Oui, mais elle n'est pas publiée grand nombre.
Sont ces revues confidentielles qui sortent à quelques centaines d'exemplaires par mois. Oui, je ne sais pas le nombre d'ailleurs.
Donc le meilleur moyen, c'est de venir vous voir sur votre site internet.
C'est ça, mais bien sûr,
c'est de venir vous voir directement dans le 12e.
C'est de consulter le site. C'est la chose qui est la plus sympa. Nous avons créé un site et je pense que dans toute cette affaire, je suis le seul, à mon avis, à avoir développé une théorie qui a ses racines dans les travaux qu'on faisait avec De Broglie il y a juste 50 ans, n'est-ce pas ?
Oui.
Et que j'ai développé avec beaucoup de retard, parce qu'il y avait dedans des formules mystérieuses que personne ne comprenait, y compris De Broglie d'ailleurs, et qui soudain se sont éclairées dans mon esprit et ont donné lieu à la découverte d'un monopole magnétique.
Alors là, vous nous parlez de votre actualité, en fait,
voilà,
au sein de la Fondation.
Voilà, c'est ça.
Voilà,
ça,
votre actualité au sein de la Fondation.
C'est ce que moi-même et des collaborateurs, qui le plus souvent ne sont pas français, d'ailleurs. Il y en a des Russes, des Américains, et fort peu de Français, mais
alors,
comme nul n'est prophète en son pays,
alors,
comme
deux
vous
mots peut-être, justement,
alors,
sur cette actualité,
alors,
le monopole
deux
magnétique.
Mots, deux mots là-dessus. Le monopole magnétique fait partie des légendes de la physique moderne, et ce que j'ai découvert, c'est un monopole qui ne ressemble en rien à celui qu'on attendait. On l'attendait lourd, il est léger, on l'attendait avec une certaine capacité de rotation, il en a une autre, enfin, etc. Mais il a une propriété tout à fait extraordinaire, c'est que, en dehors du fait qu'il est porteur d'une charge magnétique, il intervient dans une catégorie de réactions entre particules qu'on appelle les interactions faibles. Et alors, cette intervention dans les interactions faibles lui permet de créer des effets sur la radioactivité bêta. C'est que la radioactivité bêta, c'est celle qui émet des électrons, et d'intervenir donc dans des effets nucléaires. Et ce sont ces choses-là dont nous avons poursuivi l'étude expérimentale et théorique avec des laboratoires russes pendant un certain nombre d'années, et à l'heure actuelle avec un laboratoire américain.
Et donc, dans les jours, les mois à venir, vous allez publier vos travaux
par
l'intermédiaire de la Fondation ?
Non, nous en avons publié des quantités déjà de travaux. Mais nous vivons de cette vie haletante des sujets en développement que, vous savez, un jour sur deux, on se demande si c'est vrai. L'autre jour, on se dit, mais c'est génial. Et on vit dans une excitation qui, en fait, n'est plus de mon âge, mais que j'éprouve au plus haut degré.
Au plus haut degré. Cette fondation regroupe diverses nationalités. Combien de membres êtes-vous ?
Ah oui, bien sûr, oui, c'est ça. C'est-à-dire que cette fondation a un certain nombre de personnes. Vous savez qu'une fondation n'a pas de membres. C'est important de le savoir, n'est-ce pas ? Une fondation, en fait, c'est une somme d'argent et un projet. C'est un capital. Et donc, les gens qui gravitent autour de la Fondation n'en sont pas des membres, n'est-ce pas, à proprement parler.
Ce sont des électrons.
Libres, plus ou moins libres.
Libre.
Oui, c'est ça, plus ou moins libres, même plutôt plus que moins. Et donc, en fait, nous avons quelques dizaines de personnes qui sont proches, et puis une nébuleuse de plusieurs centaines de personnes dans le monde qui écrivent dans la revue, qui nous écrivent, avec lesquelles on correspond, qu'on voit, qu'on rencontre dans les congrès, etc.
Votre fondation, c'est un bureau scientifique ?
On peut dire.
Où les physiciens vont faire part de leurs nouveaux travaux ?
Ah, oui, absolument, on peut dire ça, oui, absolument.
Et vous vous ouvrez au monde, au grand public ?
Ah oui, grand public, pas tellement, non. Grand public, pas tellement. Non, c'est les annales de la Fondation, c'est quand même un peu abscons, ça, il faut dire ce qui est...
Et peut-être que vous dire... seriez amené à organiser, je ne sais pas, des colloques, peut-être ?
Ah non, mais nous avons fait des colloques. Mm-hmm. Nous avons fait des colloques, mais nous avons fait plus de colloques spécialisés que de colloques grand public. Par exemple, pour le centenaire des Cointas, puisque les Cointas ont été découverts à la fin décembre, le 14 décembre, je crois, 1900. Autrement dit, les Cointas sont une théorie du 19e siècle, à 15 jours
près. À 15 jours près.
Et pas une théorie du 20e siècle. Alors, le centenaire des Cointas a été célébré ici à l'Institut au début de 2001, donc. Mm-hmm. C'était un très grand colloque dans une salle que nous a offerte l'Académie des sciences et qui, elle, était ouverte à un public plus large. Mais il y avait quand même des moments un peu hard.
Alors, pour les internautes, auditeurs qui nous écoutent, les personnes qui pourraient peut-être vous proposer leurs écrits, ce sont des personnes déjà qui ont une activité de recherche assez ardue, ce sont des thésards.
C'est très
qui
simple.
Qui sont-ils ? La sociologie.
Ils sont accueillis très chaleureusement. Il suffit qu'ils prennent notre site.
L'adresse sera indiquée sur notre site internet.
Je ne sais plus ce qu'il y a après Fondation Louis de Broglie, je ne sais plus. Et puis donc là, il y a l'adresse.
Donc vous acceptez, bien entendu, d'avoir de nouvelles personnes, de nouvelles têtes qui viennent vous rendre visite.
Mais oui, nous n'en avons que trop, nous en sommes heureux.
Donc cette fondation continue de vivre.
Elle continue de vivre.
Et encore pour de nombreuses années. Donc pour de nombreuses années encore. Vous êtes président depuis 2001. Vous allez rester président pendant encore quelques années ou vous allez passer le relais.
Je vais passer la main.
Un autre grand nom.
Un autre. Je ne sais pas s'il est grand déjà. Le mien est moyen déjà. Mais oui, bien sûr que je passerai la main.
Eh bien, merci, Georges Lechat.
Je vous dirai comme De Gaulle le disait un jour aux journalistes, ne craignez rien, je ne manquerai pas de mourir.
Eh bien, sur ces mots, Georges Lechat, nous allons nous quitter.
Et merci beaucoup de votre accueil.
Eh bien, merci de nous avoir parlé de cette fondation Louis de Broglie que vous présidez. Louis de Broglie, je le rappelle, est un grand physicien dont on a peut-être oublié le nom, mais justement, nous avons rétabli la vérité. Nous renvoyons également nos auditeurs à une autre émission sur le portrait, la vie de Louis de Broglie, un habit vert. Donc, nous renvoyons à notre médiathèque sur le Canal Académie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Thank you.